Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h entre William T, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir, William.
Pierre.
Bonsoir à Jonas Haddad, avocat, co-président de la Fondation Concorde. On en parlait à l'instant avec Jean-Dominique Juleny, le président de la Fondation Robert Schuman. Voilà, donc Olaf Scholz réunit avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Une Europe plus unie et plus souveraine, c'est ce qu'ils souhaitent, les deux hommes. Une petite punchline d'Emmanuel Macron qui dit « Pour les Charles Leclerc, rien n'est exclu ». Le big picture, William T, de ce grand raout, c'est quoi? C'est rassurer l'Europe que le couple franco-allemand fonctionne, que le moteur de l'Europe fonctionne?
Moi, je suis très déçu de cette rencontre. Je trouve qu'Emmanuel Macron s'est couché lamentablement, qu'il aurait dû dire un autre discours, il aurait dû dire que le diktat allemand est terminé et qu'il fallait sonner l'esprit de la résistance du 18 juin 1940.
Parlez-vous de diktat allemand?
Je vais expliquer pourquoi. Je vais dire que la dernière fois qu'on a eu une relation franco-allemande équilibrée et stable, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, ce qu'on appelait le fameux couple Mercosy à l'époque. Mais depuis ce moment-là, on a eu une grande divergence entre la France et l'Allemagne pour différentes raisons. Sur le plan économique, l'Allemagne a coulé l'Union européenne en imposant une austérité qui a conduit l'Europe à une stagnation économique. Quand vous comparez les données économiques depuis 2008, entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, l'Europe est la zone qui a connu la plus faible croissance parmi les trois zones fortes. Et donc ça a conduit à notre déclin au niveau économique, et c'est la responsabilité allemande, alors que les autres présidents...
Vous voulez dire que parce qu'on était dans le même bateau, du coup...
L'Allemagne s'est trompée de politique économique, et Mario Draghi a sauvé l'honneur de l'Europe en changeant notamment la politique de la Banque Centrale Européenne, en faisant le whatever it takes, le quoi qu'il en coûte, la première version de Mario Draghi. Et ça avait conduit notamment à un déclin économique de l'Union européenne, c'est montré par toutes les statistiques et par tous les économistes vous diront à peu près la même chose. Sur le plan migratoire, Angela Merkel s'est trompée de politique parce qu'elle a servi les intérêts allemands au lieu de respecter la volonté européenne, alors que l'Europe est un marché ouvert dans la mesure où on a un marché commun avec Schengen et l'espace économique européen commun. Et à partir du moment où vous avez fait entrer une vague migratoire très importante, vous avez fait monter toutes les extrêmes droites en Europe.
Vous oubliez de dire qu'elle a écouté son émotion aussi, Angela Merkel, pour faire venir un million de migrants d'un coup.
Elle a surtout écouté les volontés et les intérêts du patronat allemand, dans la mesure où l'Allemagne, en déclin démographique, besoin de beaucoup de travailleurs pour faire tourner ses industries. Et ensuite, après, il y a un autre point, c'est la question de la politique étrangère. Ça veut dire que l'Allemagne, sous l'influence différente, c'est indexé sur la politique américaine au lieu de construire une Europe souveraine que Emmanuel Macron attendait de construire depuis le discours de la Sorbonne, et ensuite sur le plan énergétique a renforcé notre dépendance à l'égard de l'extérieur vis-à-vis de la Russie, notamment en déclinant et en détruisant le parc nucléaire européen, le sien et celui de la France, en imposant le marché européen de l'électricité. Et donc moi je pense que le sujet essentiel, quand vous avez de telles divergences dans un couple, si vous ne voulez pas divorcer, il faut expliquer les divergences très fortement et dire voici l'Allemagne, nous on voit une autre vision de l'Europe, on voit une autre vision de nos intérêts et on pense qu'il faut construire une Europe différente. Et je pense qu'Emmanuel Macron, des retours que j'ai dans tous les ministères lui ont dit la même chose et il a refusé l'affrontement avec l'Allemagne parce que peut-être qu'il joue autre chose.
Bon, on n'a pas eu les chars Léopard 2, mais on a eu William T, Jonas Haddad.
Oui.
D'accord avec lui ou pas?
Non, parce qu'en fait, c'est une vision qui consiste à ne pas regarder sa propre responsabilité. C'est-à-dire que très souvent, l'Allemagne, lorsqu'on a des défaillances, est un bouc émissaire, même si je ne soutiens pas la politique allemande en matière énergétique, absolument pas. En matière industrielle, ils font beaucoup mieux que nous. Et en fait, plutôt que de se regarder nous-mêmes, on regarde et on accuse les Allemands. Les Allemands, ils jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ont du charbon à ciel ouvert. Donc en fait, ils favorisent l'utilisation de charbon quand nous, on devrait favoriser le nucléaire. Les Allemands, ils ont une économie qui est bien industrielle alors qu'on a désindustrialisé massivement, donc ils jouent sur l'industrie. Les Allemands, ils ont une monnaie forte, donc ils jouent là-dessus. On ne peut pas leur en vouloir. Là, on peut en vouloir à la France, un certain nombre de nos dirigeants, c'est de ne pas jouer sur nos propres atouts. On avait cette indépendance énergétique avec le nucléaire. On avait la possibilité de réindustrialiser notre pays et on ne l'a pas fait. Donc évidemment, à chaque fois, on se fait tordre le bras par des Allemands qui, eux, poussent leurs avantages. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreurs, ça veut dire simplement qu'ils ont des visions et qu'ils les poussent. Deuxièmement, au niveau européen, c'est une banalité que de le dire, mais très souvent, les Allemands ont compris l'importance de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils sont contre l'Europe, ils disent « je suis très pro-européen, mais en devenant très pro-allemand ». Donc qu'est-ce qu'il fait l'Allemand, typiquement, quel que soit le dirigeant allemand, il envoie ses meilleurs éléments, par exemple, comme député européen. Donc il va négocier massivement pour faire en sorte que l'Allemagne soit bien représentée. Mais on n'a qu'à faire pareil. Je veux dire, à chaque fois, c'est la même chose.
Il faut avoir des bras aussi. Hein.
Il faut avoir des bras.
Et des cerveaux.
Il faut avoir des cerveaux et il faut assumer de dire que, vous savez, ce terme que redit souvent le président de la République, il dit « en européen ». Mais si on est en européen, et si on est vraiment dans un couple, eh ben, il faut faire en sorte que ce couple soit équilibré. Et aujourd'hui, en fait, les concessions que fait la France à chaque fois sur son modèle pour favoriser le modèle allemand, évidemment, à la fin, ça crée du ressentiment. Mais c'est comme dans un couple, en fait, si vous voulez, qu'à un moment, c'est trop déséquilibré, eh ben, y a une des parties qui dit « je veux tout casser, je veux divorcer ». Alors que moi, je pense, si on faisait là, pour le coup, de la thérapie de couple, c'est qu'il aurait fallu que la France pousse davantage sa vision pour qu'on crée une relation équilibrée. Et évidemment, aujourd'hui, on ne l'a pas fait.
Ben, c'est justement ce que ne dit pas Jean-Dominique Dulénic, qui dit que ce genre de journée, de réunion au château, de conseil ministériel franco-allemand, c'est de la diplomatie et que, pas à pas, on essaye justement, je reprends vos mots, de concilier. Mais, William T.
Mais si par cas la France a commis des erreurs, notamment, je pense à deux présidents spécifiques, celle de François Mitterrand et celle de François Hollande, et le début d'Emmanuel Macron. Allez, on va viser large. Peut-être que la France a commis des erreurs, notamment en menant pas la bonne politique économique, alors qu'il fallait avoir une volonté de puissance et de nivellement par le haut. Ces présidents-là se sont trompés sur le plan économique. Depuis Emmanuel Macron, ce que disent l'ensemble des diplomates, c'est qu'on a essayé de mener différents champs pour faire en sorte que la France se mette au même niveau de l'Allemagne. Emmanuel Macron a proposé un plan de relance. Bon, finalement, Angela Merkel l'a accepté. Mais sur différents points, différents aspects, l'Allemagne joue clairement contre nous. C'est très clair. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le plan de Bruno Le Maire sur l'hydrogène qui a été proposé en janvier 2022 sous la présidence française de l'Union européenne. Eh bien, l'Allemagne a dit non. L'Allemagne a dit non parce qu'il voulait préférer importer l'hydrogène d'autres pays, notamment les pays africains, plutôt que l'hydrogène soit produit en France. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Parce qu'ils ne veulent pas que les industriels allemands, notamment qui sont très dépendants de la question énergétique, soient dépendants des industriels français, notamment du parc EDF. Vous interrogez tous les présidents d'EDF.
C'est par idéologie aussi. Parce qu'il y a un fonctionnement français, et on le voit encore aujourd'hui avec des blocages, qui du coup fait peur aux Allemands.
Non mais vous pouvez à minima, si par cas, ne pas être totalement dépendant de la France, diversifier vos approvisionnements. Vous ne pouvez pas faire que la France, peut-être, dans le cas allemand. À ce moment-là, vous prêtez moitié-moitié. Mais vous ne faites pas en sorte que l'hydrogène français qui est produit par les centrales nucléaires ne soit pas considéré comme énergie verte. C'est un autre point. Sur la question du nucléaire, qui, notamment dans les institutions européennes, qui au sein des fonctionnaires européens, qui au sein du Parlement européen, a fait en sorte que le nucléaire français ne soit pas considéré comme une énergie verte? Et c'est finalement les pays d'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie et la Hongrie qui nous ont tenus sur ce projet-là. Sur la question économique, qui a bloqué
en Europe?
Qui a bloqué la politique centrale, notamment de Mario Draghi, pendant des années, avant que François Hollande mette un coup de pression? Je ne parle pas de gauche et droite, je parle des intérêts de la France. Et lorsque les intérêts en France sont en jeu, moi je préfère soutenir Hollande, Macron et d'autres qui ne sont pas forcément sur la même ligne que moi en termes d'idéologie, en termes politiques, mais parce que ce sont les intérêts
sur
français.
L'action et non pas sur l'idéologie.
Mais écoutez, moi j'en reviens au propos qui était dit tout à l'heure. Quand on avait une ligne claire avec une économie qui était en tout cas puissante et avec un leadership, le couple était équilibré. On parlait de Sarkozy et de Merkel. Quand Sarkozy défendait pied à pied les intérêts de la France, il n'y avait pas ces problématiques-là. C'est parce qu'un certain nombre de politiciens, et notamment, vous avez parlé de Hollande ou de Macron, se sont couchés par rapport à l'Allemagne, mais parce qu'eux-mêmes avaient des choses qui les mettaient en situation de faiblesse. La fermeture de Fessenheim, on reprend quand même la justification de Emmanuel Macron de pourquoi il a fermé Fessenheim. Souvenez-vous bien, il a dit parce que Fessenheim était trop proche de l'Allemagne et que l'Allemagne a une façon de concevoir l'énergie qui est différente de nous. Donc on voit bien en fait que c'est pas la force des Allemands.
Mais ça, Julien l'a très très bien expliqué. C'est que les Allemands sont marqués par le nucléaire, par l'histoire de l'Allemagne.
Ils sont marqués notamment par le nucléaire.
Il y a aussi un accord électoral avec les Verts à l'époque de Merkel aussi.
Ils sont marqués également par la défense. On n'en a pas parlé à l'instant. C'est qu'en gros, nous n'avons pas réussi à imposer, parce qu'on n'a pas effectivement cette volonté de puissance, le fait de dire que lorsque les Allemands ont des besoins en matière de défense, ils doivent se tourner plutôt vers le couple. Donc ils auraient dû se tourner vers des Français.
Ils l'ont jamais fait en 60 ans.
Et c'est parce qu'ils n'ont jamais développé autant que ça leur appareil de défense. En tout cas là ils disent voilà, depuis 60 ans on va développer notre appareil de défense comme jamais, et ils se tournent vers les Américains. Et là ça aurait été à nous de dire effectivement nous avons une industrie de défense puissante. Si vous le faites pour nous, c'est comme on le dit en français, c'est un deal breaker.
On l'a pas fait. Quand on est à 60 ans de relation de couple, au bout d'un moment il est temps de tirer les conclusions. Lorsque elle s'offre, le constat est plutôt clair. L'Allemagne achète depuis des années des fighters américains. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas renforcé leur défense américaine depuis des années. Et pour autant, nous, on avait des avions qui étaient aussi bien, voire aussi performants que ceux des Américains.
Mais la conclusion, ce serait quoi alors ?
Ils l'ont jamais fait.
Ce serait de dire, bah voilà,
non, non, mais je pense, mais je pense que l'Allemagne est notre ami et notre allié. Cependant, il faut enclencher un rapport de force avec l'Allemagne. Ça repose sur un premier élément, que la France devienne première puissance européenne, restaure son économie.
Bah et là, ensuite,
après, il faut un autre point,
oui,
c'est-à-dire
qu'on
fait
ça sur la méthode.
Pour affronter.
C'est sur la méthode. Après, William, il voudrait que Emmanuel Macron, il arrive là à la Sorbonne et il dise qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Je ne suis pas d'accord.
Il faut relancer l'esprit de la résistance de 18 juin 1940.
Excusez-moi, quand Emmanuel Macron, et là-dessus, je défends plutôt sa position, il va au Conseil de l'Europe et il dit on a un gros problème avec l'Allemagne. Il le dit. Ça ne provoque rien. Là, il invite les Allemands en France. Il ne va pas inviter quelqu'un et lui expliquer, lorsqu'il l'invite, écoute mon garçon, ça va
j'ai
mal.
J'ai un problème avec toi.
Et puis deuxièmement,
ce se disent en privé.
Non, mais vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de donner des leçons à qui que ce soit, alors qu'il n'arrive même pas à faire passer une réforme des retraites qui est passée dans tout le reste de l'Europe. Donc on va dire, t'es gentil.
Mais ça, c'est pas vrai, c'est toujours difficile une réforme des retraites. Lorsque Schröder a fait sa réforme en Allemagne et qu'il a fait les fameuses lois Hart, ça a provoqué des tas de manifestations, il a perdu les élections juste après.
Certes,
donc ils n'ont pas de leçon à nous donner sur comment faire passer une réforme.
En tout cas, les Allemands.
Il aime beaucoup les Allemands, William.
Oui, je vois ça, mais
je suis gaulliste.
Justement,
pour le coup,
le gaullisme, c'est la réconciliation avec l'Allemagne.
C'est pas la réconciliation.
Mais la réconciliation dans un rapport de force.
Exactement.
Oui, mais le rapport de force, il faut que notre bras soit musclé. Et aujourd'hui, notre bras est très faible. Donc moi,
l'Allemagne n'est pas dans la même situation que nous. Hein.
Mais en tout cas, elle négocie mieux. Et elle fait en sorte que l'Europe lui serve. Encore une
Exactement.
Fois, l'Europe ne nous sert pas parce que nous n'en servons pas.
Mais ça c'est l'esprit défaitiste. Moi je pense que la France a des atouts. Déjà premièrement c'est que la situation économique allemande n'est pas forcément meilleure que la nôtre à mesure où ils sont très dépendants du gaz russe et que la plupart des industries allemandes sont très dépendantes du coup des importations notamment via la France. Notamment la France a donné beaucoup de gaz pour que l'industrie allemande tienne et donc dans ce cas-là, Scholz aurait dû nous offrir une contrepartie ce qu'il n'a pas fait.
Mais ils n'ont pas autant de dettes, donc ils peuvent emprunter beaucoup plus.
Le deuxième point c'est que au niveau du Conseil européen on n'est pas dans la même architecture qu'il y a des années. Désormais l'Italie a changé de pouvoir. L'Espagne, et c'est plus davantage sur les thèses d'Emmanuel Macron que sur les thèses de Scholz. Les pays d'Europe de l'Est ne veulent pas de la politique migratoire allemande et les pays d'Europe du Nord sont en train de tomber un par un. Donc on avait les moyens d'enclencher un rapport
mais
de force pour dire si par cas vous voulez...
Ça ne marche pas.
Non mais si les Allemands ils veulent voir que des pays d'extrême droite. Mais ils ont qu'à continuer comme ça. Ça ira très bien, c'est en train de tomber un par un. Il y a la Suède, il y a l'Italie. L'Espagne peut peut-être tomber.
Qu'est-ce que vous voulez dire tomber
Moi je pense que la politique allemande conduit à une crispation au niveau européen. On le voit très bien qu'il y a une montée d'extrême droite depuis 2010.
Laissez-moi
terminer, vous irez, ça ira très bien.
Ça va bien se passer.
Vous irez voir. Mais quand vous regardez l'ensemble des points, il n'y a pas eu d'extrême droite dans toute l'Union européenne pendant des années. Pourquoi est-ce que ça émerge à partir de 2010 ? C'est à partir du déclin économique, de la crise migratoire et d'une tension très forte.
C'est votre analyse, vous dites.
C'est la mienne.
Vous êtes là pour donner votre analyse. Jonas Haddad.
Dans le monde entier, il y a une vague qui a fait en sorte que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, il y a des gens qui sont plus, je dirais, régaliens sur les questions de sécurité et qui sont parfois plus protectionnistes parce qu'en fait, la mondialisation a produit des déçus. Donc ça n'a rien, pardon, hein, mais je pense que l'émergence d'une vague d'extrême droite ou de populisme, comme on dit, n'est pas le fait de l'Allemagne. On le voit dans l'intégralité des pays du monde, parce qu'il y a des gens qui sont déçus par la mondialisation et qui se la prennent en plein visage. Donc mettre tout ça sur le dos de l'Allemagne, moi, ça me semble assez rapide. De la même façon, si demain, par exemple, le RN n'arrive pas au pouvoir dans ce pays, c'est parce qu'il y a des tradition historique qui font aussi que les gens ne vont pas voter pour le Rassemblement National. Donc on ne peut pas dire que c'est de la faute de l'Allemagne, et si l'Allemagne ne se comporte pas bien, on va se prendre une vague d'extrême droite. Non, la réalité c'est que les pays qui subissent la défaite de la mondialisation parce qu'ils n'ont pas su en jouer, eh bien effectivement se réfugient dans un vote populiste. Et ça c'est à nous de regarder notre propre défaillance.
Bon.